par jour si vous avez 65 ans. C'est vraiment rassurant.
Appelez gratuitement Réunica au 0800 11 33 33. Conditions sur réunica.com.
Il est 13h30, juste pile. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Fabrice Drouel.
Voilà, pile parce que je voulais vous laisser votre espace.
Effectivement, aujourd'hui, eh ben, ce sera il y a 50 ans, le 4 octobre 1957, il y a 50 ans jour pour jour, les Russes ont envoyé dans l'espace le premier satellite artificiel de l'histoire, le Spoutnik.
Les explications, Fernand Lotte.
Eh bien, l'émission sous forme de message Morse est en effet une émission extraordinaire dans toute la force du terme. Il s'agit des signaux lancés par le satellite artificiel qui gravite actuellement autour de la Terre.
D'histoire. Il y a 50 ans, le 4 octobre 1957, une fusée de 300 tonnes décollait de la base secrète de Baïkonour, quelque part dans le désert du Kazakhstan. Au sommet de ce monstre de 30 mètres de haut, des savants soviétiques avaient placé un petit objet rond de 58 cm de diamètre qu'ils avaient appelé Spoutnik, ce qui en russe veut tout simplement dire satellite. Il était si petit qu'il ne transportait rien d'autre que deux batteries et un émetteur radio. Il était 22h38, heure locale. Quelques minutes plus tard, après avoir pulvérisé tous les records d'altitude et de vitesse, la radio du Spoutnik émettait un signal historique, un bip-bip, qui annonçait au monde entier que pour la première fois dans l'histoire, on avait lancé dans l'espace un objet fabriqué par des hommes. C'était l'aboutissement de plusieurs années de recherche, commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale lorsque, quelque part au bord de la Baltique, l'armée rouge avait découvert les secrets d'une fusée, le V2, avec laquelle les Allemands bombardaient Londres en 1944. Feu !
Les nazis ont mis au point un engin très perfectionné. Je dirais qu'ils ont au moins 25 ans d'avance sur nous tous.
Qui est le cerveau derrière tout ça?
Il s'appelle Dr. Werner von Braun.
Où est la base des missiles?
Von Braun contrôle les opérations depuis Peenemünde sur la côte balte allemande. Le site a été bombardé en août dernier, sans réussir à interrompre le lancement. Mais inutile d'envisager un autre raid, les Russes vont s'emparer de Peenemünde d'un jour à l'autre.
Pierre Banan, bonjour.
Bonjour.
Alors, à l'occasion du 50e anniversaire du lancement du premier satellite artificiel de l'histoire, vous venez d'écrire aux éditions Jacqueline Chambon un livre du Spoutnik, de Spoutnik à la Lune, l'histoire secrète du programme spatial soviétique, un programme qui a commencé, vous le rappelez, bien avant le Spoutnik et même avant la découverte des fusées allemandes par les Alliés en 1945. Le jour, vous le dites, le jour du lancement du Spoutnik, Sergueï Korolev, qui était le principal artisan de ce succès soviétique, disait « Nous avons accompli aujourd'hui le rêve de Konstantin Tsiolkovsky, notre grand pionnier. » Alors tout le monde aujourd'hui a oublié le nom de Tsiolkovsky. C'était pourtant, et vous le dites, non seulement l'initiateur du programme spatial soviétique, mais même de tous les programmes spatiaux.
C'est exact, cette histoire a commencé trois quarts de siècle avant Spoutnik, dans les années 1860, quand un adolescent, et même moins qu'un adolescent, un jeune garçon de 12 ans, frappé de surdité et passionné de lecture et très curieux de nature, a lu l'œuvre de Jules Verne, et en particulier de la Terre à la Lune. Et il a été passionné par ses perspectives de voyages spatiaux, mais il s'est posé la question, comment peut-on naviguer sa propulsion, comment peut-on se déplacer dans l'espace.
Dans le vide.
Dans le vide, où il n'y a pas de point d'appui, où une hélice ne fonctionne pas, où on pensait à l'époque que même une fusée ne fonctionnerait pas, puisque on était convaincu, la majorité des physiciens étaient convaincus qu'une fusée prenait appui sur l'air pour avancer. Je vous rappelle que c'était une époque où aussi une majorité de savants avaient montré qu'au-delà de 40 km à l'heure, le chemin de fer écraserait ces voyageurs contre les banquettes. Donc il y avait un certain nombre de préjugés. Tsiolkovsky décide de consacrer sa vie à la science, à cette science-là, et il commence une carrière d'autodidacte. Il est certes professeur, il est enseignant de sa formation, donc il a une très bonne formation mathématique, il est professeur de mathématiques, mais toute sa vie, il va la consacrer à construire une immense œuvre théorique qui a effectivement préparé, avec 30 ans d'avance, les travaux de la première moitié et de la deuxième moitié du XXe siècle.
Alors, le régime impérial russe n'attache pas une grande importance à ce qu'il fait. En revanche, à l'avènement du communisme en Russie, Lénine, le régime communiste s'y intéresse, on en sent Tcholkovski, il commence à avoir de très nombreux disciples, et parmi eux, un homme très important lui aussi, qui est encore tout jeune à l'époque, mais qui sera l'artisan et du Spoutnik, et même de l'envoi de Gagarine dans l'espace, qui s'appelle Korolev. Hein. C'est lui qui a joué un rôle essentiel. Korolev, d'ailleurs, qui va participer à une ébauche de programme spatial, c'est-à-dire en envoyant simplement de petites fusées, mais qui sera envoyé en camp de concentration en 1938 par Staline. Il va y passer 6 ans.
Effectivement, à partir de la fin des années 20, et notamment à partir de 1928, premier plan quinquennal de Staline, premier plan quinquennal de l'Union soviétique, la recherche dirigée par l'État devient une priorité. Ce sont les années où l'Occident s'enfonce dans la crise. Staline veut en profiter. Il est donc très généreux, le gouvernement soviétique crée un certain nombre d'instituts, dont un institut astronautique qui prépare, en effet, avec des ingénieurs comme Korolev, les fusées du futur, qui, vous le rappeliez, ne sont à l'époque que de petits engins. Paradoxalement, c'est cela qui fera qui sera l'origine des problèmes d'hommes comme Korolev, car en développant la science, on développe une élite intellectuelle. Et à un certain moment, elle risque de se poser des questions sur l'écart entre les libertés politiques, qui sont inexistantes à l'époque, sous Staline, et la réflexion scientifique, qui au contraire a besoin d'un espace de liberté qu'on lui donne. Et c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons des purges qui ont été décidées à partir de 1937. C'était pour remettre au pas une élite intellectuelle qui risquait de devenir trop autonome, et dont Korolev, parmi d'autres, fera les frais. Donc il sera condamné dans un procès tout à fait ridicule, et il partira au goulag.
Alors, entre-temps, il n'y a pas de programme spatial américain sérieux à ce moment-là. En revanche, les Allemands, pendant la guerre, vont développer un programme qui n'est pas à proprement parler un programme spatial, mais les premières fusées, les premiers missiles intercontinentaux, dites-vous, les V2, hein, ce qu'on appelait les V2.
Tout à fait, il n'y a de programme spatial nulle part dans le monde. Par contre, il y a des programmes d'armement. Or, au traité de Versailles, en 1918, les Alliés avaient imposé à l'Allemagne, au titre des capitulations, de renoncer à toute artillerie. À toute artillerie classique, en tout cas, telle qu'on la connaissait à l'époque. Donc, bien évidemment, il y a eu une pression en Allemagne pour chercher d'autres formes d'artillerie, pour contourner cet interdit. Et c'est dans ce contexte que des hommes comme von Braun et d'autres ont commencé à développer des fusées propulsées qui ne seraient jamais que des munitions avec leurs propres propulseurs pour remplacer l'artillerie. Le V2 est donc devenu une munition de longue portée.
Et c'est ainsi qu'effectivement on libère, parce que ça intéresse Staline, on libère Korolev, on dit en russe, on le libère donc de son camp et on l'envoie sur la base allemande de Peenemünde où il arrive en mai 1945.
Comment est-ce que ces fascistes allemands ont pu réussir alors que nos ingénieurs soviétiques ont échoué?
Et le gain de puissance. Un missile de cette taille a assez de puissance pour soulever un tracteur à 100 km dans les airs. Les nôtres peuvent seulement envoyer une boîte de sucre à la moitié de cette hauteur.
Tout ce qu'il y a ici doit être rassemblé et envoyé à Moscou.
Lieutenant-colonel Korolev, à vos ordres.
Bienvenue, camarade Korolev. Entrez, camarade, entrez. Le camarade Glushko, que vous connaissez déjà. Vous allez travailler ensemble. Glushko sur les moteurs de missiles, et vous, Sergei Pavlovitch, vous serez notre ingénieur en chef, et vous en référerez directement à moi.
Dans l'intérêt de la sécurité de l'État, vous ne devez plus avoir de nom. Personne ne doit connaître votre identité. Comme si vous n'aviez jamais existé.
Pierre Balland, c'est vrai que personne n'a entendu parler ou n'entendra parler de Korolev pendant très longtemps, y compris en URSS, alors qu'il est à l'origine des succès soviétiques.
Korolev devient effectivement une non-personne, et ceci jusqu'à sa mort, lorsqu'il reçoit la direction technique du programme de missiles balistiques lancé par Staline. Alors, cette décision n'a pas été prise comme c'était montré dans cette reconstitution en 1944, ce qui est un point de détail. Elle a été prise 3 ans après, début 1947, mais c'est tout à fait exact, pendant 20 ans, jusqu'à sa mort, il sera totalement inconnu, supprimé de toute mention.
Mais alors, avec le concours, alors les Russes étaient arrivés en Allemagne dans l'espoir de prendre von Braun. Vous vous rappelez qu'en fait von Braun est parti aux États-Unis, tandis que les Russes ont quand même envoyé en Allemagne 6000 spécialistes avec lesquels ils vont mettre au point, d'abord faire remarcher le V2, l'améliorer et mettre au point de nouvelles fusées. Mais alors ils reçoivent, le programme soviétique reçoit une aide considérable parce que on est au début de la guerre froide et ce que veut Staline, c'est pouvoir atteindre le territoire des États-Unis, donc il mise sur les fusées alors que les Américains ont peut-être pris du retard parce qu'eux avaient des avions bombardiers à long rayon d'action et finalement ils ont pris un peu de retard par rapport aux Russes. C'est ça, c'est en fait le programme spatial, aussi bien d'ailleurs soviétique qu'américain, il est d'abord militaire beaucoup plus que scientifique, Pierre Balland.
Aussi bien aux États-Unis qu'Union soviétique, le programme spatial est une sorte de déroutage, de détournement du programme de missiles balistiques, donc tout à fait militaire. Sachant qu'aux États-Unis en 1945, la priorité est quand même au désarmement, alors que l'Union soviétique, pour des raisons qui sont les siennes, continue et décide d'amplifier son réarmement. Alors ces raisons, on peut les rappeler, c'est notamment la cuisante défaite en 1941 face à l'agression surprise de l'Allemagne, et l'Union soviétique s'est promis de ne plus jamais se retrouver en position d'infériorité. Il y a d'autres raisons, mais c'est effectivement à partir de 1945 que Staline constate que s'il veut renforcer son armement, il doit notamment réunir dans ses mains deux armes que personne n'avait réunies dans ses mains jusqu'ici, le missile V2, qui était allemand, et la bombe atomique, qui était américain. Et donc il s'est dit, si moi j'ai les deux, je suis le maître du monde. Plus personne ne pourra m'attaquer et je pourrai même faire jouer à l'Union soviétique ce rôle messianique d'installer le communisme partout. Donc il va lancer un programme très important et c'est à ce titre qu'il envoie de très nombreux techniciens à Peenemünde et ailleurs en Allemagne orientale.
Et alors qu'il améliore bien sûr les missiles allemands, il va même construire ce qui est resté longtemps la plus grosse fusée jamais construite, Pierre Balland, vous le rappelez, ce qu'on appelait la R7 ou Semyorka, hein, qui était 20 fois plus gros que le V2 et qui a eu une portée qui pouvait dépasser les 6000 km. À ce moment-là, les États-Unis pouvaient être atteints à partir du territoire soviétique.
Tout à fait. Vous avez rappelé que les Américains avaient une flotte importante de bombardiers. Les Soviétiques avaient négligé de développer des avions bombardiers, en particulier parce qu'ils s'étaient auto-intoxiqués avec leur propre propagande, minorant pendant la guerre le rôle des bombardiers alliés dans la victoire. Et une autre raison, c'est que pour frapper l'Union soviétique, les États-Unis avaient également les bases de l'OTAN en Europe. Donc elles n'avaient pas besoin de développer de toute façon des missiles de très longue portée du fait de ces bases. Ce n'était pas le cas de l'Union soviétique, qui n'avait donc qu'une seule solution, des engins de longue portée, et la préférence s'est portée en effet, si je puis dire, sur un missile.
Alors ce missile R7 ou Semyorka, avec lequel les soviétiques vont lancer le Sputnik, il s'agissait de dépasser les Américains, parce qu'il y avait une compétition déjà entre eux. Les Américains avaient prévu, annoncé de lancer un satellite, le premier de l'histoire, pour l'année géophysique internationale, ils sont devancés par Korolev qui, le 4 octobre 1957, il y a 50 ans, lançait donc dans l'espace le premier satellite artificiel avec à son bord une radio dont les bip-bip ont été entendus dans le monde entier et que Radio Moscou annonçait en anglais le succès de l'URSS.
Des explications, Fernand Le.
Eh bien, l'émission sous forme de message Morse est en effet une émission extraordinaire dans toute la force du terme. Il s'agit des signaux lancés par le satellite artificiel qui gravite actuellement autour de la Terre.
Grâce au travail assidu de nos chercheurs, le premier satellite artificiel au monde a été lancé dans l'espace avec succès en Union soviétique.
Don't use the flying spotting fellows in your city unless you change your ways. How can you succeed when the views so far will be getting low? Your heart becomes weak and the beat is low. A lily heart is made. Join a loving race and start your spinning round my heart. Oh,
Pierre Balland, ça vous amusait beaucoup. Je crois que vous ne les connaissiez pas. Il y a tout dans votre livre sur cette expédition du Spoutnik, mais cette chanson est une trouvaille, hein, que dans la discothèque de Radio France. Le Spoutnik a eu tellement de succès, en effet, que même les Américains, on l'entend, en ont fait une chanson. Alors qu'au début, c'est assez curieux, ça m'a étonné en vous lisant, Pierre Balland, les Russes, les Soviétiques, n'ont pas insisté beaucoup. La Pravda accorde 5 lignes le 5 octobre, le lendemain, au succès du Spoutnik.
Il y a eu effectivement 3 réactions très contrastées et successives au lancement de Spoutnik. La première réaction officielle de ceux qui étaient à l'origine de ce tir, c'est-à-dire l'État soviétique, est en effet pour le moins modeste. L'événement est relégué de façon tout à fait latérale dans les tribunes des journaux officiels. Et la raison en est finalement assez logique. Ce programme était un détournement par des scientifiques avec une connivence plus ou moins consciente de l'État soviétique qui n'y accordait en fait aucune importance. Deuxième réaction dans les jours qui ont suivi, c'est l'étonnement, l'admiration du monde entier et très rapidement aussi l'inquiétude. Parce que l'opinion publique, aidée aussi par la presse, aidée par certains milieux politiques occidentaux, a commencé à se poser la question, mais si on en peut envoyer un satellite, peut-être qu'on peut mettre aussi des bombes atomiques, par exemple, en orbite autour de la Terre. Que révèle, sur le plan militaire, cet événement extraordinaire? Troisième réaction, Khrouchtchev constate ces réactions au bord de l'hystérie, d'admiration pour l'Union soviétique, mais aussi d'inquiétude, et il se dit qu'il faut, si je peux utiliser cette expression, prendre le train en marche, et donc là, l'Union soviétique rectifie complètement le tir, et à partir de ce moment, présente Spoutnik comme un événement exceptionnel, et se décide bien à continuer sur cette lancée.
Oui, et puis un instrument de propagande, c'est évidemment le succès de la science soviétique, et au-delà du communisme. Dans le tiers-monde aussi, ça a beaucoup d'impact. Hein. Vous citez Nasser, qui considère que c'est la fin du colonialisme, parce qu'à l'époque, il est l'allié des soviétiques. Et du coup, évidemment, aux États-Unis, on s'inquiète beaucoup, parce que non seulement le prestige des États-Unis est atteint, mais également leur sécurité. Alors, un succès du Spoutnik est d'ailleurs confirmé immédiatement après par l'envoi quelques jours plus tard, du premier être vivant dans l'espace, qui était une chienne, Laïka, envoyée par un autre Spoutnik, beaucoup plus lourd, d'ailleurs 500 kilos, mais qui ne reviendra, qui était vraiment, un lancement dont Laïka, la pauvre Laïka, ne reviendra jamais, Pierre Balland.
Elle a été effectivement la première victime de l'espace. 2 jours après Spoutnik, pour montrer que les Khrouchtchev a vite réagi, il a convoqué Korolev à son bureau, Korolev qui revenait juste du centre de lancement, dans le Kazakhstan. Donc Korolev a à peine le temps de descendre de l'avion qu'il est convoqué au bureau de Khrouchtchev, et Khrouchtchev lui demande de répéter un exploit cosmique encore plus extraordinaire qui sera exploité, mais là tout de suite, de la même façon que Spoutnik, dans un délai de 3 semaines et demie, 3 semaines et demie, 4 semaines. Pourquoi ce délai? Tout simplement parce que c'est le 40e anniversaire de la révolution d'octobre. Et Korolev va relever le défi, car il avait déjà lancé, alors il a une idée, qui consiste à lancer un animal pour un vol sans retour, mais ça on n'insistera pas sur cet aspect-là, la propagande insistera sur le fait qu'on envoie un engin habité avec un animal à bord. Il peut proposer ce vol, car il avait déjà fait ce genre d'expérience, dans les années précédentes avec des missiles balistiques qui ne s'étaient pas mis sur orbite mais qui avaient qualifié ces capsules.
Alors ce satellite pesait 500 kilos, lui beaucoup plus lourd que le Spoutnik, alors que le 31 janvier suivant, en 58, eh bien les Américains lancent leur premier satellite Explorer qui fait pas le figure puisqu'il ne faisait, vous le rappelez, que 15 kilos. Ça fait sourire d'ailleurs, tout comme la longue série des échecs des Américains et de leur missile Vanguard ici en 1959.
Une gigantesque lueur rouge et jaune naît à la base de la fusée qui commence à s'élever lentement, verticalement. Tout le cap resplendit. Plus 8, plus 9, plus 10. La fusée s'élève toujours dans le frombissement de ses réacteurs.
Et oui, c'était l'échec d'une fusée Vanguard en 1959 aux États-Unis. Alors, évidemment, vous le rappelez aussi, je l'ignorais, mais au fond, on a beaucoup parlé des échecs américains, mais les Soviétiques subissaient au même moment pratiquement autant d'échecs. Vous en citez pas mal, Pierre Balland.
Alors au début, les Américains ont subi encore plus d'échecs que les Soviétiques, mais ensuite les courbes se sont inversées. Les Soviétiques ont connu de plus en plus d'échecs au fur et à mesure où le programme progressait, si je puis dire. Les Américains corrigeaient leurs erreurs. Par contre, comme vous l'expliquiez, la compétition était inégale, dans la mesure où les Américains montraient tout,
et on entendait tout,
on le voyait à la télévision. Les Soviétiques n'annonçaient leur tir qu'après, et bien évidemment, uniquement ceux qui avaient réussi.
Alors il y a une chose qui est assez amusante, vous le rappelez, c'est que parfois aussi, ils transformaient leurs échecs en succès. Alors vous donnez deux exemples qui m'ont beaucoup fait sourire, Pierre Balland. D'abord, ils envoient une sonde sur la Lune en 1959, Lune 1. Alors, elle rate sa cible, c'est un bel exploit, personne ne l'avait fait, mais elle rate sa cible, elle se dirige vers le Soleil, et aussitôt, voilà que les Soviétiques baptisent cette sonde, Meshta, hein, le rêve, comme s'ils l'avaient fait exprès, au fond, d'envoyer non pas vers la Lune, mais vers le Soleil, cette fusée. Ça me fait penser à cette phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Il y a d'autres cas, il y a le cas notamment d'une sonde envoyée sur Vénus.
C'est tout à fait approprié, cette citation de Cocteau. Effectivement, dans le deuxième cas auquel vous faites allusion, les Soviétiques ont annoncé en 1960, si je ne me trompe pas, le lancement d'un énorme laboratoire scientifique autour de la Terre, d'un poids de 6 tonnes, qui a beaucoup impressionné les spécialistes. 6 tonnes, c'est quand même presque 100 fois Spoutnik. Alors en réalité, on sait maintenant que ce n'était pas du tout ça. Ils avaient prévu d'envoyer la première sonde vers Vénus. Pour cela, ils devaient envoyer avec leur fusée un dernier étage qui devait se satelliser autour de la Terre, puis se rallumer pour viser précisément la planète Vénus. Il ne s'est jamais rallumé. Et donc, ce malheureux étage inerte prolongé par la sonde vénusienne a été rebaptisé en catastrophe laboratoire spatial.
Oui. Alors, c'est bon, ça fait partie, effectivement, du jeu, de cette compétition sur l'espace. Il y a quand même des succès impressionnants, ça a duré longtemps. Par exemple, Luna 2, qui a touché, qui était le premier objet de la Terre touchant la Lune. Et puis en octobre 59, un succès encore plus grand, une sonde enfin qui fait le tour de la Lune et prend en photo sa face cachée.
Alors c'est effectivement un vieux rêve de l'humanité de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de la face cachée de la Lune. Ce rêve a été réalisé et là, il faut quand même reconnaître l'exploit assez acrobatique des techniciens soviétiques. Il a été réalisé avec ce missile balistique qu'avait lancé dont le programme avait été lancé par Staline et qu'ils vont donc dont ils vont modifier le système de guidage de façon à lui faire avec un étage supérieur contourner la Lune et renvoyer par un procédé très primitif les premières images de la face cachée. Ce procédé très primitif, c'est la bélinographie qui était l'ancêtre du fax vers 1900-1910. Donc vous voyez que c'était au niveau des télécommunications très rudimentaire, mais au niveau de la propulsion et du système de guidage un exploit.
Et de la photo, je crois que vous en reproduisez une dans ce livre, elle n'était pas d'une netteté folle, mais enfin, en plus, ils baptisent de noms de un certain nombre de montagnes ou de mers, du nom de noms russes. Hein. Tsiolkovski, justement, d'ailleurs, a reçu, je crois, sa montagne, a donné son nom à une montagne. Alors, cela dit, il y a quand même énormément d'échecs avec une nouvelle fusée, qui est la fusée Vostok, qui était destinée à envoyer le premier homme dans l'espace, et qui prenait donc un risque considérable lorsque Korolev, le 12 avril 1961, envoyait donc ce premier homme de l'espace, Yuri Gagarin, au moment du décollage, à 9h du matin, était encouragé par Korolev, dont le nom de code est Aube-1.
Aube-1, je vous ai compris, je me mets en position de départ. Cèdre, ici Aube-1, allumage. Bien reçu, allumage. Premier étage, deuxième étage, troisième, lancement exécuté, on y va. Ici Aubin, nous vous souhaitons un bon vol. C'est parti.
À 9h22 heure de Moscou, le commandant Yuri Gagarin faisait savoir. Le vol se déroule normalement. Ici Moscou. Communiqué de l'agence TASS sur le premier vol de l'homme dans l'espace cosmique.
Aujourd'hui, 12 avril 1961, en Union soviétique, le premier vaisseau Spoutnik cosmique au monde, Vostok, ayant à son bord un homme, le pilote commandant Yuri Gagarin, a été placé sur son orbite autour de la Terre.
C'était en 1900.
1961, à l'époque d'ailleurs, vous le rappelez, personne n'imaginait tous les risques qu'avaient pris Gagarine et Korolev. Deux essais sur trois de cette fusée Vostok avant l'envol de Gagarine avaient été des échecs, c'est-à-dire des explosions.
Il a fallu effectivement beaucoup de courage physique à ces cosmonautes dans l'époque Vostok et Vostrod. Le programme était en fait un crash programme qui avait été lancé sur les chapeaux de roue un an ou un an et demi plus tôt, compte tenu des annonces américaines du programme Mercury qui aurait consisté justement à envoyer un homme sur orbite, mais plutôt vers fin 61. Enfin, au début, on espérait début 61, et puis finalement, ils l'ont fait en 62. Donc,
mais peu de temps après, Shepard, le premier américain dans l'espace, c'était le 5 mai 61, c'est-à-dire quelques jours à peine après Gagarine.
Tout à fait. Donc, avec la concurrence américaine qui se précisait, il a fallu brûler les étapes, et c'est vrai que les ingénieurs ont pris un certain nombre de risques, et notamment sur les 7 vols de la fusée Vostok, qui ont précédé le vol historique de Gagarine. L'objectif était d'avoir 2 vols successifs sans passagers réussis, mais il a fallu quand même brûler 7 vaisseaux, 7 fusées pour obtenir ce résultat, et le bilan c'est que sur les 7, quand même, les 2/3 avaient échoué. Donc Gagarine est parti avec cette statistique en tête.
Le bilan, c'est aussi un prestige immense, bien entendu, on s'en doute pour l'URSS. Gagarine est reçu triomphalement à Moscou, on en parle dans le monde entier, le prestige est aussi grand que celui des États-Unis est devenu très bas à l'époque, alors qu'en réalité, vous le rappelez, les États-Unis se sont sensiblement rapprochés des soviétiques qui vont encore dominer d'ailleurs avec Leonov, premier homme dans l'espace. Mais à partir de ce moment-là, c'est un peu le déclin. 69, ce sera, on le sait, les Américains qui seront les premiers sur la Lune. Comment expliquer ce déclin de l'URSS après 12 ans de suprématie dans l'espace, Pierre Balland?
On voyait un engin autour de la Terre comme Spoutnik, ou même un cosmonaute dans une capsule non manœuvrable, sont des opérations certes difficiles, mais à la portée d'une puissance, d'une grande puissance industrielle, qui bénéficie de programmes de missiles balistiques puissamment aidés par le gouvernement. C'était donc le cas de l'Union soviétique. Envoyer un homme sur la Lune et le faire revenir, c'est un autre défi. Et l'Union soviétique n'a pas mis en place les financements, les méthodes de commandement et la détermination politique pour relever ce défi.
Merci Pierre Balland. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant de Spoutnik à la Lune, c'est-à-dire jusqu'à au-delà de l'histoire de Gagarine. L'histoire secrète, hein, parce qu'il y a beaucoup de secrets qu'on ignorait à l'époque, du programme spatial soviétique. Un livre qui vient de paraître aux éditions Jacqueline Chambon. À lire aussi le numéro hors série du magazine Science et Vie, 50 ans de conquête spatiale, dès lundi dans les kiosques. Vous avez pu entendre 2 extraits d'un passionnant docu-fiction à la conquête de l'espace, réalisé par la BBC et diffusé sur Arte en décembre 2006. Je signale également un autre documentaire, Les années Spoutnik, des pirates de l'espace durant la guerre froide, qui sera diffusé ce samedi 6 octobre à 20h45 sur Arte. À voir aussi l'exposition Cosmomania, qui se tiendra à partir de demain et jusqu'au 6 janvier prochain à la Cité de l'Espace de Toulouse. On pourra voir, je crois, le cosmonaute Leonov. Et puis, la journée spéciale Spoutnik continue sur Inter. Vous pouvez retrouver à 19h20 le téléphone sonne d'Alain Bédouet sur les enjeux actuels de la conquête spatiale. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gidry, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la rediffusion de la semaine, la peste.
France Inter et le Théâtre des Bouffes du Nord présentent jusqu'au 31 octobre « Je tremble », 2 et mise en scène par Joël Pommerat. Dans un lieu qui pourrait s'appeler cabaret ou théâtre, quelques spécimens de l'humanité viennent se raconter ou se chercher une vérité sous la conduite d'un présentateur plutôt déconcertant. Retrouvez Je tremble dans les émissions de France Inter.
Et voici notre rubrique MMA pour les professionnels.
Pour moi qui suis traiteur, la qualité, la fraîcheur des produits, c'est essentiel. Si le système de régulation de ma chambre froide tombe en panne, tous mes produits sont perdus et là on est mal. Heureusement, zéro tracas.
L'assurance MMA Pro couvre le bris de vos machines. Les réparations de votre chambre froide sont prises en charge et les marchandises qui sont stockées vous sont même remboursées. Vous donnez le meilleur de vous-même à vos clients. Nous vous offrons le meilleur de l'assurance. Alors rendez-vous dans une agence MMA pour un diagnostic complet et gratuit. Et à bientôt pour notre rubrique MMA pour les professionnels.
MMA. Offre soumise à condition.
Mission Thérèse, vous m'entendez?
Incroyable! Investissement en recherche, innovation et enseignement supérieur, 100 millions d'euros en 3 ans! J'ai aussi repéré 2 pôles de compétitivité!
2 pôles de compétitivité? Comment s'appelle cette partie de la Terre?
La Lorraine! Je répète, la Lorraine!
Découvrez les faces cachées de la région Lorraine sur www.lorraine.eu. À 1h20 de Paris en TGV.
La Lorraine, un jour, vous lui demanderez la Lune.
Dans quelques instants, Mathieu Vidard et C'était au carré. Aujourd'hui, le défi de l'eau, mais tout de suite sur France Inter, au quatrième top, il sera 14h. Les informations, Claire Servagent. Bonjour Claire.
Bonjour Patrice Gélina, bonjour à tous. Catastrophe aérienne au Congo, Kinshasa. Un avion cargo avec 19 personnes à bord s'est écrasé près de l'aéroport. Il est tombé sur un quartier d'habitation. Les premières informations font état de nombreuses victimes. Nicolas Sarkozy en Bulgarie depuis ce matin. Le président français a été décoré de la plus haute distinction bulgare et il a rendu hommage à son épouse pour son rôle dans la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien qui était emprisonné en Libye. Son intervention a été en tout point remarquable, a dit le président français en justifiant son absence par un souci de discrétion. Le premier président de la Cour d'appel d'Agen annonce avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature du cas du procureur général d'Agen, à qui Rachida Dati a demandé de quitter son poste. Nous sommes inquiets et indignés, déclare le premier président en demandant à la garde.